Microcité.
Une émission de l'école de journalisme de Grenoble.
Sur Campus Grenoble 90.8.
16h30, 17h.
Rudy Pupin.
Bonjour à toutes et à tous, il est 16h30, bienvenue dans Microcité, votre émission d'information hebdomadaire. C'est un plaisir de vous retrouver. Pour ce troisième numéro, il sera question de cannabis. Le Canada vient d'autoriser sa vente libre sur son territoire. Alors, pour ou contre sa légalisation, ce sera le thème de notre débat avec Alexandre Lepère et nos deux invités en studio. Notre long format sera consacré aujourd'hui à une histoire de vie, celle d'un autiste, Aurélien Deschamps. Un film projeté lors du festival Le Monde au coin de la rue à Grenoble lui a été consacré. Léo Corcos l'a rencontré en marge de la projection. Reportage en fin d'émission. Vous êtes sur Radio Campus Grenoble, n'hésitez surtout pas à réagir sur Twitter et Facebook, hashtag Microcité. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Microcité, ça commence maintenant. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité, le journal de Luc Chemla.
Dans ce journal, retour sur les révélations ce matin de France Info. Au sujet de l'enquête sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, Julien Penaud reviendra sur les toutes dernières informations. Au sommaire également, la ministre des Sports qui tente de rassurer le mouvement sportif au sujet de la baisse du budget de son ministère. À l'international, pas un jour ne passe sans de nouvelles révélations dans l'affaire du journaliste disparu Jamal Khashoggi. En fin d'édition, Xavier Pourroy reviendra sur le prix Diderot, attribué cette semaine au Centre de Culture Scientifique Grenoblois, la Casemate, sans oublier bien sûr la sortie aujourd'hui de l'album posthume de Johnny Hallyday. La semaine est décidément mouvementée pour la France Insoumise. Après les perquisitions houleuses au siège du parti, France Info fait aujourd'hui des révélations sur Sophia Chikirou, directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon durant la campagne 2017. Julien Penaud, bonjour.
Bonjour.
Elle a été auditionnée ce matin par les enquêteurs. Alors que lui reproche-t-on exactement ?
Sophia Chikirou est soupçonnée d'avoir gonflé les factures de ses prestations. Les frais de son agence de communication, Mediacorp, ont coûté 1,2 million d'euros, soit 11% du budget total de la campagne. Des tarifs anormalement élevés selon les enquêteurs. Un exemple, Luc, la simple publication des discours de Jean-Luc Mélenchon sur SoundCloud, une plateforme de streaming, coûtait 250 euros l'unité. Le sous-titrage d'une vidéo, quelques 200 euros de plus, des surfacturations qui ont été remboursées par l'État. Autre anomalie, selon les enquêteurs, Sophia Chikirou avait une double casquette, à la fois directrice de la communication du candidat et patronne de Mediacorp.
Elle était donc à la fois prestataire et cliente ?
Exactement, Luc, c'est elle qui fixait les prix des prestations qu'elle fournissait elle-même. Pratique. Déjà en février dernier, la Commission nationale des comptes de campagne pointe des écarts significatifs avec la grille tarifaire de cette entreprise. Objectif, tromper l'organe de contrôle et obtenir le remboursement de l'État.
Merci Julien. Et Jean-Luc Mélenchon vient d'ailleurs de tenir une conférence de presse pour s'expliquer sur cette affaire. Pour la quatrième fois cette année, le prix du gaz va augmenter. On l'a appris ce vendredi, une hausse de 5,4% est à prévoir à partir du 1er novembre. Au total, en 2018, le tarif du gaz a augmenté de plus de 16%.
La ministre des Sports s'est voulue rassurante ce matin sur le budget de son ministère pour 2019, Luc.
Il doit baisser normalement de 30 millions, mais Roxana Maracineanu, invitée de France Info ce matin, a assuré que le budget ne baisserait pas. Dans le même temps, 32 présidents de fédérations olympiques ont adressé une lettre à Emmanuel Macron et plus de 300 sportifs, dont Teddy Riner, ont publié ce vendredi une tribune dans le journal de l'équipe pour faire part de leur inquiétude et demander une réaction. Plusieurs centaines de retraités ont manifesté hier dans toute la France, répondant ainsi à l'appel de 8 syndicats dont la CGT et Force Ouvrière. Ils dénoncent la baisse de leur pouvoir d'achat et demandent la suppression de la hausse de la CSG. Reportage de Rudy Pupin à Grenoble.
Il faudrait que nos ministres vivent avec la pension de réversion d'une veuve qui n'a que ça pour vivre.
Comme beaucoup de retraités, Madeleine est en colère. La hausse de la CSG intervient dans un contexte déjà difficile pour elle.
J'ai 1175 de prélèvements mensuels pour assurance, location et charges et je touche 1591.
Un coût de la vie qui augmente alors que les pensions restent identiques. Yves Richard, secrétaire départemental CGT des retraités en Isère.
On perd tous les ans au moins 1% facilement par rapport à l'augmentation des prix et par rapport au salaire moyen.
Certains doivent donc faire des sacrifices, comme Denise. Elle touche seulement 1200 euros par mois.
Il y a des choses sur lesquelles on est obligé de tirer des croix. Je n'ai pas de voiture, je ne peux pas m'en offrir une. Je suis propriétaire de mon appartement, mais c'est difficile parce que les charges ont augmenté.
Pour améliorer son niveau de vie, Bernard, à la retraite depuis 4 ans, n'exclut pas de reprendre le travail.
Si j'arrivais à trouver un petit à côté, je refuserais pas, quoi. Je pose tous les jours des questions, est-ce qu'on va arriver au bout à la fin du mois, quoi.
En France, 1 million de retraités vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins de 1015 euros par mois.
Un reportage de Rudy Pupin dans la capitale des Alpes.
On reparle vendredi de l'affaire Michel Fourniret.
Condamné à la perpétuité en 2008 pour le meurtre de 7 jeunes filles, le tueur en série est aujourd'hui, et pour la première fois depuis 11 ans, confronté à son ex-femme Monique Olivier. Cette rencontre devant les juges doit confronter leur version au sujet de la disparition en 1988 de Marie-Angèle Domès, dont le corps n'a jamais été retrouvé. En février dernier, l'ogre des Ardennes, comme il est surnommé, a reconnu avoir croisé la route de la jeune fille. Les stations de ski de Tignes dans les Alpes ont ouvert leurs portes avant-hier, mais avec 2 semaines de retard par rapport à l'année dernière. Alors est-ce dû au réchauffement climatique et faut-il s'alarmer? Les explications de Christian Vincent, glaciologue à l'Institut Géosciences de l'Environnement de Grenoble.
Tous les glaciers qui ne cumulent pas au-dessus de 3500 mètres d'altitude sont condamnés si la fin du XXIe siècle. Les mesures de protection ont une efficacité à l'échelle locale, mais pas du tout à l'échelle des glaciers. Et puis, les mesures de protection, elles sont très gourmandes en énergie et accentuent les émissions polluantes, et ce qui va à l'encontre de la lutte contre le réchauffement climatique. Les glaciers perdent de plus en plus de masse, et depuis 2003, cette tendance s'est accélérée. C'est-à-dire que la fonte estivale a encore augmenté. C'est dû à un surplus d'énergie dans l'atmosphère. Les climatologues nous disent qu'au cours des 30 dernières années, la moitié du réchauffement que l'on observe est due aux activités anthropiques, donc due aux activités humaines.
Le glaciologue Christian Vincent au micro de Julien Penaud.
Le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, disparu le 2 octobre à Istanbul, est-il mort ?
C'est en tout cas ce que pense Donald Trump. Le président américain s'est exprimé dans la nuit à ce sujet. Il en a profité pour mettre en garde l'Arabie Saoudite, accusée d'avoir orchestré l'assassinat de ce journaliste exilé aux États-Unis depuis 2017, après avoir critiqué le roi saoudien. Si la responsabilité du royaume est confirmée, Donald Trump a promis, je cite, « de très graves conséquences ». Depuis mercredi, le Canada est officiellement le 2e pays à légaliser à usage récréatif le cannabis. L'objectif annoncé est de réduire le marché noir. En libre-service depuis 2 jours, il y a déjà une pénurie dans les boutiques. Je vous rappelle que la possible légalisation du cannabis en France est le sujet de notre débat à retrouver dans quelques minutes.
Les fans l'attendaient, le voilà enfin Luc.
Le 51e et dernier album de Johnny Hallyday, décédé en décembre dernier, est sorti cette nuit. Mon pays c'est l'amour compte 11 chansons. Il n'est disponible que depuis quelques heures, mais il fait déjà un véritable carton. Rendez-vous compte, l'album est déjà disque de platine, dépassant ainsi les 100 000 ventes. À Grenoble, la Casemate a remporté ce lundi le prix Diderot, une récompense nationale. Le Centre de Culture Scientifique a été primé pour son projet Écoscience. Mais de quoi s'agit-il ? Xavier Pourroy s'est rendu à la Casemate pour en savoir plus sur ce projet.
À la Casemate, un joli trophée trône sur une étagère. En forme d'hexagone, il récompense Écoscience, un réseau social scientifique et local. Marion Sabourdier, responsable éditoriale d'Écoscience, détaille l'utilité du réseau.
Il y a des articles, il y a un agenda avec tous les événements, les conférences, les expositions, et puis d'autres rubriques comme des petites annonces. L'idée, c'est qu'en un seul espace, on a tout ce qui concerne les sciences sur le territoire de Grenoble.
À Grenoble, environ 2000 personnes sont inscrites sur Écoscience. Le réseau est ouvert à tous, professionnels ou amateurs des questions scientifiques. L'idée du concept est venue après un tour sur différents sites spécialisés.
On avait souvent des sites internet un peu figés qui présentaient des ressources par exemple. Une plateforme qui mixe comme ça à la fois des outils de mise en lien et puis de promotion des activités. Ça n'existait pas sous cette forme-là.
Pour que les utilisateurs soient à l'aise, Pascal Moutet, chef de projet web, a concocté un savant mélange de plusieurs réseaux sociaux bien connus.
On a pris des petites fonctionnalités chez Twitter, on a regardé un petit peu les logiques de flux, de LinkedIn, de Facebook, et on a fait un petit mix de tout ça, et ce petit mix donne Écoscience.
Et le petit mix s'est agrandi depuis 6 ans. Aujourd'hui, le réseau couvre 12 territoires différents, un peu partout en France. En tout, Écoscience compte près de 5000 membres. L'Île-de-France devrait être le prochain territoire connecté.
Un reportage de Xavier Pourroy à Grenoble. En football, l'Olympique Lyonnais accueille ce soir Nîmes en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Début du match à 20h45. On n'oublie pas non plus la Ligue 2. Grenoble se déplace sur la pelouse de Nancy, coup d'envoi à 20h. Coup dur pour l'équipe de France de handball, on l'a appris ce matin, Nicolas Karabatic vient de se faire opérer du pied droit. Il est d'ores et déjà forfait pour le championnat du monde qui se tiendra du 10 au 27 janvier en Allemagne et au Danemark.
Merci Luc Chemlin, on vous retrouve en toute fin d'émission pour le rappel des titres.
Microcité.
Il est 16h39 sur France 1 sur Radio Campus Grenoble. Merci d'être à l'écoute de Microcité. Dans quelques minutes, notre débat sur la législation du cannabis. Mais avant tout, une petite pause musicale. We can do better. Oh yeah, we can do better. I know it hurt bad. Your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave, cause history repeats, we've seen it around the world. Well, all that we're told is this, so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. We might drink too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget before we go to bed, and we're gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. See is bad blood and mistakes. All we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. The We Can Do Better de Matt Simons. Vous écoutez Radio Campus Grenoble. Il est 16h43. Restez avec nous, c'est l'heure du débat.
Le dossier.
Un débat qui porte aujourd'hui sur la légalisation du cannabis. Et pour en parler, j'accueille Alexandre Lepère. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alors le Canada autorise depuis mercredi sa vente libre. C'est le deuxième pays au monde à le légaliser.
Oui, cet exemple pose question en France. Même si notre loi réprime sévèrement la consommation, détention ou production de cannabis, les positions évoluent peu à peu et certains partis politiques souhaitent un vrai débat sur la question. Avec nous en plateau, Gaël Beau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué Les Républicains dans la 5e circonscription de l'Isère. En face de vous, Chloé Pantel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du comité Grenoble Métropole de Génération, le parti de Benoît Hamon. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Chloé Pantel, première question. Souhaitez-vous que la France suive l'exemple canadien ?
Oui, tout à fait. Génération, par l'intermédiaire de Benoît Hamon pendant la présidentielle, a porté la proposition de la légalisation du cannabis en France.
Alors vous, Gaël Beau, donc vous avez une position qui est bien différente. Vous pouvez la détailler, s'il vous plaît.
Alors moi, je suis contre la légalisation, tout simplement parce que j'ai pas non plus de raison d'être pour. Et j'avoue que dans le terme légaliser une drogue, ça me pose quand même un problème.
Merci à vous pour cette réaction. Pour donc préciser à nos auditeurs, Chloé Pantel, vous voulez donc la légalisation du cannabis en France, ce qui va donc plus loin que la dépénalisation. Pourquoi aller plus loin tout simplement dans cette question autour du cannabis ?
En fait, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, le trafic de stupéfiants pose une question de santé publique et de tranquillité publique. La légalisation permettrait de répondre tout d'abord à la question de la sécurité dans certains de nos quartiers, avec, au bout de quelques années après la légalisation, une réduction, voire l'arrêt du trafic de stupéfiants qui concerne bien évidemment uniquement le cannabis et pas l'ensemble des drogues. Et sur la question de la santé publique, la légalisation permet juste d'accompagner déjà les personnes qui consomment, parce que elles consommeraient plus en cachette mais dans des lieux particuliers, et puis ça permettrait d'avoir un suivi et de la consommation et un suivi des drogues plus clair par l'État.
Donc vous parlez ici de l'aspect sécuritaire. Gaël Beau, qu'avez-vous à répondre à cette intervention?
Alors, tout d'abord, ce n'est pas le trafic de stupéfiants qui pose des problèmes de santé publique, c'est la consommation en général de stupéfiants qui pose des problèmes de santé publique. Ensuite, moi je pense qu'il n'y aura aucune baisse de délinquance, aucune baisse de trafic, parce que tout simplement les délinquants, les dealers vont se porter vers d'autres trafics, que ce soit cocaïne, MDMA, crack. On voit bien par exemple à Paris aujourd'hui, Porte de la Chapelle, il y a une colline entière qu'on appelle la colline du crack. Donc il n'y a aucune vente de cannabis là-bas, c'est juste c'est du crack. Donc c'est une drogue encore plus dure que le cannabis et elle pose encore plus de problèmes de délinquance. Enfin, les habitants disent qu'ils ne peuvent même plus traverser le quartier. Il y a des meurtres à peu près tous les deux jours. Donc je ne pense pas qu'il y ait une vraie baisse de délinquance. Ensuite, sur le problème de santé publique, je ne vois pas vraiment pourquoi légaliser le cannabis réduirait la santé publique. Pour moi, il faut juste une prévention. Une prévention des jeunes notamment, parce qu'on sait que chez les jeunes, le cannabis a un vrai effet sur le cerveau. Pour la formation du cerveau, ça pose de vrais problèmes. Et ensuite, pour les salles de shoot, je crois que j'ai un peu entendu parler de ça. Les gens, avant, tu as dit tout à l'heure qu'ils consommaient plutôt du cannabis dans des lieux en cachette, etc. Même que ce soit dans des lieux particuliers, je ne pense pas vraiment qu'il y ait un meilleur accompagnement. On voit les salles de shoot à Paris, ça n'a pas vraiment eu un effet énorme, hein. À part les bagarres à côté et puis les soins qui s'échangeaient.
Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, Chloé Pantel?
En fait, c'est pas vrai. Juste quand on accompagne les personnes qui sont dépendantes d'une drogue en leur vendant dans des lieux effectivement autorisés, ce qui serait permis par la légalisation du cannabis, ça permettrait en fait d'avoir un contact avec ces personnes-là et de travailler avec eux toute la question de la prévention et de manière générale de la santé publique. Si on continue dans du trafic et dans de l'illégalité, déjà, les jeunes continueront à commencer à consommer parce qu'aujourd'hui, ce qui fait que les jeunes consomment, c'est parce que c'est interdit et parce que c'est le défi du jour et le défi du groupe d'aller fumer du cannabis. Et déjà, par la légalisation, ça permettrait de réduire la consommation. Et quand on regarde ce qui s'est passé dans certains États des États-Unis où ils ont légalisé le cannabis, oui, la consommation a fini par baisser. Et oui, les trafics ont baissé. Et tant que ça sera pas qu'on fermera les yeux sur cette problématique-là, on continuera à faire effectivement, à avoir des jeunes, mais pas que des jeunes, qui consomment dans des conditions qui sont dangereuses pour eux.
Justement, il est 16h48 sur Radio Campus Grenoble, et une autre question se pose, Alexandre, sur les modalités justement de cette application.
Oui, les modalités de l'application. En effet, donc on parle ici des modalités d'application qui peuvent être des modalités d'application d'ordre médical. Donc pour notamment soigner, le cannabis pourrait soigner des douleurs chroniques liées à une chimiothérapie. Mais cet avis n'est pas partagé par tous les professionnels de la santé. C'est le cas de Michel Simès. On l'écoute.
Comment un médecin peut être pour la légalisation et la consommation de cannabis, parce que ça la banalise et parce que les dégâts sur un cerveau d'adolescent sont dramatiques. Les Néo-Zélandais ont fait une étude prouvant que ça faisait baisser le quotient intellectuel quand on fumait régulièrement.
Chloé Pantel, en tant que représentante de Génération, êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec Michel Simès ?
Je suis d'accord avec lui sur le côté que le cannabis, c'est mal pour la santé des jeunes et des moins jeunes. Ça, on est totalement d'accord. Sauf que comment on fait pour réduire la consommation ? Est-ce qu'on continue dans l'état actuel ou est-ce qu'on essaye de trouver une solution ? Et la solution, pour moi, elle passe par la légalisation parce que si on ne légalise pas le cannabis, les personnes continueront à consommer. Ils ne seront pas accompagnés dans l'arrêt de la consommation, ils n'auront pas forcément toutes les informations qui concernent le cannabis. Alors que si on légalise le cannabis dans les lieux de vente, il y aura des lieux de prévention et la prévention permettra la réduction de la consommation.
Gaël Beau, du côté des Républicains, est-ce que cette légalisation amène forcément une banalisation ?
Non, parce que oui, ça amène une banalisation déjà, mais moi je vois pas vraiment pourquoi... la criminalisation, la pénalisation du cannabis, ça serait contraire à la prévention. Enfin, franchement, on peut quand même faire des salles, on peut quand même faire des lieux où les jeunes peuvent venir s'exprimer sur leur dépendance. Il n'y a aucun problème là-dessus. Enfin, quelqu'un qui va vendre du cannabis et qui va lui dire « attention, c'est quand même pas bien », c'est quand même un petit peu bizarre, je pense. Légaliser, c'est quand même vraiment un symbole fort et c'est pas du tout le symbole qu'on veut pour que les gens, que les jeunes arrêtent de consommer du cannabis. Ensuite, je reviens sur un petit point sur les pays qui ont dépénalisé ou légalisé le cannabis. On voit par exemple au Colorado. Le Colorado, donc ça, les chiffres ont légèrement stagné, ils ont un petit peu augmenté, mais ce n'est pas non plus significatif. Par contre, moi, j'ai d'autres chiffres qui sont assez importants au niveau de la santé publique. C'est que légalisation entraîne d'autres formes de consommation de cannabis, par exemple les pâtisseries, les bonbons, etc. Et donc, par exemple, les parents vont consommer ça chez eux, ils vont en laisser sur la table. Au Colorado, depuis la légalisation, il y a eu une hausse de 150% des empoisonnements juvéniles au cannabis. Et il y a une autre hausse, c'est celle des overdoses de mineurs qui sont admis dans les hôpitaux de 50%.
Une réaction, Chloé Pantel ?
De toute façon, les exemples, ils peuvent être vrais. Oui, ce sont les chiffres. Mais est-ce qu'on continue comme ça, en fait ? Moi, la question, c'est est-ce qu'on continue comme ça ? Et je pense qu'il faut mettre un terme principalement au trafic de stupéfiants. La santé publique, elle passera forcément par la prévention, on en a déjà parlé. Par contre, comment on met un terme au trafic de stupéfiants ? Et la seule réponse de mettre un terme au trafic de stupéfiants, c'est la légalisation. L'emprise des trafics sur la vie de certains quartiers, ce n'est plus acceptable. Et effectivement, il faut passer par la légalisation pour faire un travail sur cette économie parallèle.
Alors, vous parlez du trafic de stupéfiants, justement. C'est un point fort de ce débat. Parce qu'il y a l'aspect sécuritaire, évidemment.
Oui, tout à fait, on en a parlé tout à l'heure. Le trafic de cannabis est un business juteux qui génère 1 milliard d'euros par an sur notre territoire. Mais à cela s'ajoutent des tensions inévitables et des règlements de compte au cœur des quartiers. Pour remédier à ce problème, le maire de Grenoble souhaite la légalisation du cannabis. On va écouter Éric Piolle, c'était en janvier dernier, au micro de l'émission Les Grandes Gueules sur RMC.
Tous ceux qui ont lutté contre la drogue de façon massive, notamment aux États-Unis, avec la guérilla contre la drogue, sont revenus dessus en disant qu'ils s'étaient plantés au niveau sanitaire, qu'ils s'étaient plantés au niveau financier, qu'ils s'étaient plantés au niveau sécurité. Et ben nous, finalement, on ne fait rien. On épuise notre police qui est démoralisée face à cette gangrène et on marque une impuissance publique.
Gaël Beau, du côté des Républicains, que pense-t-on dans cette intervention d'Éric Piolle ?
Déjà, le pauvre Éric Piolle, il n'a pas grand-chose à proposer pour sa ville, donc je pense qu'il part sur des sujets un peu plus nationaux. Mais on voit encore qu'il n'a pas vraiment tous les arguments et toutes les idées en tête pour ce débat-là. Il ne doit pas aller encore souvent dans les quartiers, je pense. Parce que le trafic de stupéfiants, c'est un trafic parmi d'autres. Donc arrêter ce trafic-là, après, il y en aura encore 20 autres derrière, c'est n'importe quoi. Là, on voit déjà, par exemple, le prix des cigarettes, ça va faire augmenter le trafic de cigarettes. Et puis aussi, moi, je pense que... Évidemment, le cannabis, s'il est jamais légalisé, il y aura une énorme taxe de l'État là-dessus, parce que c'est une drogue. Donc qui dit que dans les quartiers, il n'y aura pas une concurrence et il sera moins cher que dans les instituts légaux. Donc peut-être que le trafic va tout simplement continuer, il va peut-être même être encore plus productif. Il y aura peut-être même des répercussions sur les instituts légaux qui vont faire de la concurrence dans les quartiers, il y aura encore plus de violence.
Vous pensez à quelles répercussions rapidement ?
Incendie, vol, casse, on peut penser à tout. Hein.
Chloé Pantel, est-ce que ce serait quand même une solution ce que propose Éric Piolle pour Grenoble ?
Oui, c'est une des solutions. On ne pense pas que c'est la seule et unique solution. Je pense que la question de la sécurité dans les quartiers passe pas uniquement par la légalisation du cannabis, mais c'est une des solutions. Il faudra bien évidemment être attentif à la mise en place d'autres trafics, d'autres économies parallèles qui pourraient se mettre en place. Mais sur la question du trafic de cannabis, il me semble, et j'y crois vraiment, que c'est par la légalisation qu'on s'en sortira.
Mais Gaël Beau, comment s'attaquer autrement aux trafiquants alors ? Avec plus de forces de police ?
plus de forces de police, mais pas forcément dans la répression, parce qu'on voit que la répression, au bout d'un moment, il y a un plafond de verre et ça sert pas forcément à aller trop dans la répression. Mais plus de prévention. Enfin, je trouve déjà qu'il y a pas assez de prévention, moi, sur les effets réels du cannabis. On ne voit pas, par exemple, de spots publicitaires à la télé. On en voit plein pour l'alcool, plein pour le tabac, mais on en voit pas du tout pour le cannabis. Il y a pas d'affiches, etc. Je trouve qu'il y a un réel manque déjà d'informations pour déjà baisser le nombre de consommateurs, parce que si on baisse le nombre de consommateurs, on baissera le trafic.
Chloé Portal, de votre côté, du côté de Génération, Benoît Hamon réclamait lors de la campagne présidentielle la création de points de vente de cannabis directement gérés par l'État, donc une intervention de l'État forte. C'est un principe que vous défendez toujours ?
Oui, c'est effectivement la solution pour être sûr de la qualité du cannabis qui est vendu et pour être sûr aussi de où va l'argent de ces lieux-là et ça permettrait effectivement à l'État d'avoir par l'intermédiaire des taxes un revenu sur ce marché-là et argent qui sera complètement reversé à la prévention et à la santé publique.
Gaël Beau, rapidement, votre réaction.
Alors moi, je trouve que parler d'argent sur ce domaine-là, c'est vraiment malsain parce que franchement, quand on parle d'un domaine où il y a des problèmes de dépendance, de violence, de crime organisé, parler, on va se faire de l'argent derrière, on dirait entendre un lobby d'une grande industrie.
Alors malheureusement, l'heure tourne en 13 minutes, c'est court, on l'a vu. Merci à vous deux d'avoir participé. Alors, Chloé Pantel, je le rappelle, vous êtes membre du comité Grenoble Métropole de Génération, le mouvement de Benoît Hamon, et Gaël Beau, délégué Les Républicains de la 5e circonscription de l'Isère. Merci à vous deux. Et merci aussi à Aurélia Valarie et Alexandre Lepère d'avoir préparé ce débat. Il est 4h55, vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble. Microcité jusqu'à 17h. Des histoires de vie sur grand écran, des documentaires qui parlent du monde. Une des salles de la Maison des Habitants Grenoble a été transformée en cinéma le temps d'une semaine pour le festival Le Monde au coin de la rue. L'un des films met en scène un homme atteint d'autisme, Aurélien Deschamps. Il y raconte ses difficultés à travers ses repères au quotidien. Reportage sur place, Léo Corcos.
Il y a des gens qui viennent... Oui,
La salle est pleine à craquer pour la diffusion de « Quelle folie !», le documentaire de Diego Governatori. Un succès qui n'est pas démenti à la fin de la séance. Aurélien Deschamps est autiste, il est le sujet du film, un projet né d'une réflexion sur sa situation personnelle.
Ce à quoi je suis confronté, moi, c'est simplement le refus, le raté, le rien du tout. Hein. C'est-à-dire que tu rates, ça marche pas, ça colle pas avec les autres. Je me constatais rejeté et un beau jour, je me suis rendu compte, en lisant sur tout ça, que ce concept d'autisme peut avoir sa pertinence pour parler de quelqu'un comme moi.
Mais pour lui, le sujet de l'autisme va plus loin que son propre cas.
L'autisme révèle des choses qui sont des composantes de tout être humain. Parce que l'autisme, c'est un rapport problématique à la parole. Et en fait, chez tout le monde, la parole, c'est quelque chose de problématique. Chez les autistes, se voit un peu plus nettement ce qui, chez chacun, est en fait un problème fondamentalement.
Même si le film a été bien accueilli, il n'y voit pas une finalité.
Moi, j'ai envie de continuer à travailler avec ma parole. Et moi, à partir de maintenant, je veux travailler à non pas développer ces problématiques autistiques, mais développer ce que moi, en tant qu'autiste, j'ai comme rapport privilégié à mon vécu. C'est la parole. Là.
Un discours partagé par le réalisateur, Diego Governatori. Il a d'abord fait ce film pour aider un ami, mais il souhaite dépasser la problématique de l'autisme.
Une des premières ambitions du film, c'est d'essayer d'enregistrer cette parole pour faire en sorte qu'il sorte de cet isolement psychique et cette solitude par lequel sa vie était prise. C'est un fragment, un fondement à partir duquel on puisse repenser la société dans laquelle on nous demande de plonger. Et j'espère qu'au-delà du portrait d'un autiste, il y a le portrait d'un homme.
La démarche semble avoir porté ses fruits. Robin, qui travaille avec des enfants autistes, a été touché par la performance d'Aurélien Deschamps.
Au final, c'est qu'on voit qu'il livre ses émotions telles qu'elles viennent. Et je trouve que c'est un film rempli d'empathie, tout du long.
Son amie Laurence, elle, y a vu un message très universel.
On a tous en nous une part d'autisme. En fait, finalement, ce film, il parle de l'autisme, mais en partant d'une personne, comment il peut toucher l'humanité et la fragilité et puis toute la puissance aussi d'un être humain.
Le film n'a pas fini de marquer, il doit être encore présenté dans 3 festivals la semaine prochaine.
Et le film pourrait même sortir en salle au mois de février. Merci à Léo Corcos pour ce long format. Il est 16h58 sur Radio Campus, Microcité touche bientôt à sa fin. Mais avant de se quitter, le rappel des titres avec Luc Chemla.
Auditionné hier au sujet du financement de sa campagne électorale de 2017, Jean-Luc Mélenchon vient de tenir une conférence de presse. Il demande l'annulation des perquisitions menées ce mardi au siège de son parti, la France Insoumise, et dénonce, je cite, une nouvelle offensive politique de la Macronie. On vient également de l'apprendre après plusieurs mois de crise. La direction d'Air France a signé ce vendredi un accord salarial avec une majorité de syndicats pour une hausse générale des salaires de 4%. Invitée de France Info, la ministre des Sports a affirmé ce matin que le budget de son ministère ne baissera pas en 2019, contrairement à ce qui a été annoncé il y a quelques semaines. On finit avec la météo. Un très beau week-end s'annonce en cette fin d'octobre. Il sera largement ensoleillé sur toute la France. Côté température, il te fera 15 degrés demain matin en Isère et 20 l'après-midi. Même chose pour dimanche.
Merci beaucoup Luc. Microcité, c'est déjà fini. Prochain rendez-vous dans une semaine, vendredi à 16h30. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter @microcité. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter toutes nos émissions en podcast sur campusgrenoble.org. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de journée sur Radio Campus 90.8.